Et pour cette première partie de l'EM, nous vous parlons d'histoire avec Yves Coitivy, président de la Société archéologique du Finistère et professeur d'histoire médiévale à l'UBO. Bonjour.
Bonjour.
Alors, on va prendre un peu de recul sur l'actualité bouillonnante et foisonnante du moment en faisant un peu d'histoire et peut-être même un petit peu plus d'histoire médiévale. Alors, la rumeur pour discréditer son adversaire n'a pas eu besoin de l'existence des réseaux sociaux pour exister. On peut presque dire qu'exercer la rumeur est un art qui existe depuis la nuit des temps. Alors, à quoi ça ressemble la rumeur au Moyen-Âge ? Est-ce que ça existe ?
Alors, la rumeur existe au Moyen-Âge et elle prend plusieurs formes, soit des formes populaires, enfin tout à fait classiques, on a peur de l'autre, on est dans un climat anxiogène et on imagine que tout ce qui nous arrive de mal vient d'ailleurs ou est dû à une cause qu'on ignore mais qu'on suppose. Et puis il y a la rumeur politique qui est utilisée comme argument pour, passez-moi l'expression, pour pourrir son adversaire et puis l'amener dans un état de faiblesse. Donc on a toutes sortes de formes de rumeurs, d'inquiétudes et souvent ces rumeurs évoluent en situations dramatiques et certaines communautés considérées comme exogènes en sont les victimes. Donc il y a des rumeurs qui peuvent être instrumentalisées et qui peuvent aboutir à des drames. C'est quand même une situation qui n'est pas toujours très sympathique.
Parce qu'aujourd'hui, les fausses nouvelles, les rumeurs sont colportées par les réseaux sociaux, mais à l'époque, ça se passait comment ?
Alors, la rumeur circule par le bouche à oreille. Alors, souvent, derrière la rumeur, il y a quand même un groupe, des groupes qui créent une sorte d'idéologie ou d'idée plus ou moins toxique, et ces groupes, en se déplaçant, vont répandre cette rumeur. Donc c'est souvent associé à une pérégrination. Je pense par exemple aux flagellants en 1348, au moment de la peste, qui vont de ville en ville pour annoncer la fin du monde, cette peste voulue par Dieu et qui vient punir les hommes qui étaient pécheurs. Et leur déplacement correspond au déplacement de la rumeur et à des pogroms, puisque face à une maladie qu'on ne comprend pas, qui est nouvelle et qui est meurtrière, enfin nouvelle, dans cette forme dramatique de peste noire en tout cas, eh bien on va chercher des raisons, on va chercher des gens à punir, et là typiquement ça tombe sur la communauté juive qui est la victime désignée de ce grand mouvement de panique face à une maladie, et il faut le rappeler dans un contexte très anxiogène, celui de la guerre de 100 ans pour la France, des guerres en général, guerre de succession en Bretagne et d'autres, donc on a un cocktail là qui est détonnant et dramatique.
Jusqu'où va la rue? Jusqu'où peut-on aller pour discréditer ses adversaires politiques ?
Au pire. c'est pas compliqué. Le maître en matière de rumeurs, c'est sans doute, enfin, pour le Moyen-Âge en tout cas, Philippe le Bel et son entourage. Philippe le Bel, roi de fer, donc règne à la fin du XIIIe, au début du XIVe siècle, et il doit affronter un adversaire de taille qui est le pape Boniface VIII, et qui est un tenant d'une une idée politique très simple. Le pouvoir pontifical est supérieur à celui des rois, ce que le pape appelle les petits rois, les riguli en latin. Et donc, Philippe le Bel, face à cette menace qui est contre son pouvoir, le pouvoir royal, va employer la rumeur, la fausse nouvelle, la désinformation, et au bout du compte, réussit quand même son opération.
On peut pousser le parallèle avec Trump.
Ou par exemple, vraiment, après, là, on entre...
Et Nogaret serait son Pompéo.
Voilà, on quitte le voyage par l'époque contemporaine. Mais en effet, souvent, on a comme ça des personnages, l'initiateur de la politique, de l'idée, et ensuite ceux qui vont la décliner, ceux qui vont la nourrir, ceux qui, au Moyen-Âge, ceux qui s'appuient sur leur connaissance du droit, de la loi, etc. J'imagine qu'actuellement ça se passe à peu près de la même façon. On intervient dans des réseaux de pouvoir et ça permet d'une certaine façon de dédouaner le chef de ses responsabilités, et ça lui permet de s'appuyer sur une masse de gens qui va diffuser au Moyen-Âge, c'est par l'écrit, la parole, les sermons, etc. Actuellement, ce sont d'autres moyens, mais la technique n'est pas vraiment différente. Et ça laisse un peu le souverain au Moyen-Âge, chef d'État actuellement, un petit peu au-dessus de la mêlée. Il peut toujours faire sauter des fusibles s'il estime que ça va trop loin.
Est-ce qu'on peut faire une typologie des grandes accusations du Moyen-Âge ? Par exemple, je sais pas, la sorcellerie,
Ah, très bonne accusation. Dans le cas de Philippe Lebel et de Boniface VIII, à peu près tout a été employé. En effet, on l'a accusé de sorcellerie, on l'a accusé de vendre les bénéfices ecclésiastiques aussi, donc une accusation de corruption, c'est toujours bon à prendre. On l'a accusé de placer ses proches dans des postes de pouvoir, ça aussi c'est efficace, et souvent ça fonctionne sans trop de difficultés. Et pour le Moyen-Âge, on l'a même, et là c'était une accusation terrible pour l'époque, hein, il faut bien comprendre qu'on est au milieu du Moyen-Âge, à la fin du Moyen-Âge, on a accusé le pape de sodomie, c'est-à-dire qu'on l'a accusé d'homosexualité, en fait, c'est ça que ça veut dire. Hein. Et donc, tout a été utilisé, tout a été employé pour dégrader l'image du pape, l'amener à être en situation de faiblesse, et finalement, le roi, après avoir délayé ces fausses informations, ces informations très trafiquées, a fini par dire, écoutez, nous n'avons pas d'autre choix que de juger le pape, ce qui était un peu le monde à l'envers. Et c'est au moment où il envoie Nogaret auprès de Boniface VIII.
Et l'épisode de la
claque. Voilà. Est-ce que Nogaret a giflé le pape? On n'en sait rien, parce que donc on est au début du XIVe et Nogaret, le bras droit de Philippe le Bel, arrive à Anani, où Boniface VIII est en résidence hors de Rome, et le pape aurait été bousculé, parce que Nogaret a passé le reste de sa vie à écrire des textes dans lesquels il dit qu'il n'a pas frappé le pape. Alors, le pape a-t-il été frappé, bousculé? Nogaret n'est pas seul. Les enjeux locaux étant ce qu'ils sont, des Italiens se sont aussi mêlés à l'éclat. Enfin, toujours est-il que le pape meurt quand même un mois après. Ce qui laisse penser qu'il a été profondément marqué. C'est un vieillard, mais il a été profondément marqué par cet épisode, cet attentat d'Anani. Nogaret l'a profondément regretté. Ce qui est sûr, c'est que ça a ouvert un boulevard au pouvoir royal, et on assiste clairement à l'abandon de cette politique de volonté hégémonique du pouvoir papal et de triomphe du roi de France. Donc cette accumulation de rumeurs, de mauvaises, fausses informations, etc., qui aboutit à l'attentat d'Anani, permet quand même à Philippe le Bel de renforcer considérablement son pouvoir. Donc ça a été efficace.
Comment est-ce qu'on fait dans ce contexte de rumeurs, de fausses nouvelles, quoi, pour faire ressortir la vérité? En fait, est-ce que quelqu'un s'inquiète de la vérité?
Alors,
Les procès, on ne peut pas compter là-dessus. Ils sont manipulés.
Déjà, celui qui en est victime se défend, en expliquant que non, tout est faux, que éventuellement va apporter des explications en disant que si son neveu a fait ceci ou s'il a pris de l'argent, c'était pour telle raison. Mais dans ces cas-là, on connaît la formule, là, tout ce qui est dit peut être retenu contre vous. C'est-à-dire que lors de ces phénomènes, plus les personnages se défendent, et d'autant plus s'ils sont un peu maladroits, et plus ça ne fait que renforcer la rumeur. On retourne tout ce qu'ils disent en disant, mais vous voyez, s'il est obligé de se justifier, c'est que forcément... Il a fait du mal. Donc c'est très pratique, et la rumeur et la fausse information s'entretient toute seule, surtout quand celui qui en est victime essaye de se défendre.
Est-ce que derrière ça aussi, est-ce que au Moyen-Âge, est-ce que les dirigeants ont connaissance ou se posent la question de l'opinion publique? Est-ce que ça les intéresse quand même de la manipuler,
Alors, c'est justement, l'opinion publique apparaît avec le pouvoir politique à la fin du Moyen-Âge, au même moment, dans le courant du XIIIe siècle. On se rend compte que, quand tout va bien, quand le roi est puissant, quand le prince est puissant, d'ailleurs, parce que c'est valable dans les principautés aussi, il n'y a pas de problème, on n'a pas soucié de l'opinion publique. Mais de temps en temps, lors d'un moment de faiblesse, lors d'un moment de crise, il peut être bon de pouvoir s'appuyer sur le peuple, qui va venir légitimer, qui va venir cautionner l'exercice du pouvoir. Et donc, on voit l'opinion publique qui est manipulée. C'est clairement le cas dans l'affaire de l'attentat d'Anani, où les informations du pouvoir visent essentiellement les élites. Hein. Faut pas non plus imaginer que ça dégringole jusque dans les chaumières. Et lors du célèbre affaire de la même époque, hein, Philippe le Bel était orfèvre, l'affaire des Templiers, clairement, on va aussi manipuler l'opinion publique pour lui faire penser que les Templiers, ce ne sont que des crapules et que l'ordre ne mérite que de disparaître.
Donc, on sait, on a des traces, on sait comment le peuple ou la noblesse Plus voilà. Précisément, perçoit ce conflit entre Boniface VIII et puis Philippe le Bel ?
Oui, alors les informations sont véhiculées essentiellement par des textes qui sont recopiés et diffusés auprès de ceux qui savent lire et écrire et qui devaient se les passer. Ça circule dans les élites, les discussions dans les familles et les sermons. Le sermon étant très pratique, la grande assemblée, soit l'assemblée politique, les états généraux, ce qui deviendra plus tard les états généraux, ou bien l'assemblée religieuse, lors d'une grande cérémonie religieuse, lors d'une fête, lors d'un événement particulier, permet de diffuser auprès des élites un message. Quand vous avez un baptême royal, des funérailles, un couronnement, etc., l'occasion est excellente d'avoir sous la main toutes les élites d'un pays, religieuses, nobiliaires et bourgeoises, et de faire passer un message, et un message qui va ensuite être répété de façon à ce qu'il rentre dans les... Et on est au Moyen-Âge, et jusqu'à une époque récente, on est dans une civilisation de l'oral. C'est-à-dire que, à l'époque contemporaine, on s'appuie beaucoup sur l'écrit. Que ce soit l'écrit papier ou désormais l'écrit numérique. Au Moyen-Âge, on est d'abord dans une situation orale, et donc ce sont des populations qui ont sans doute une excellente mémoire et qui sont capables de reproduire un discours très longtemps après, de l'apprendre. Et on sait aussi que pour favoriser la diffusion de l'information, on peut s'appuyer sur telle ou telle chanson populaire. Ah. C'est-à-dire qu'on va prendre un air que tout le monde connaît.
Il n'y a pas un roi qui s'est appuyé là-dessus ?
Ah si, il y en a plusieurs, mais on
mais qui reprend... aurait écrit les textes ?
Alors, que les rois écrivent les textes, sans doute pas, que leurs proches ou que leur entourage politique le fasse. Il est probable, par exemple, dans le cas breton, on a dans le Barzaz-Breiz, collecté par la ville marquée au début du 19e siècle, un certain nombre de textes politiques. On aurait, pas bien clair, mais il est probable qu'ils sont quand même bons, en partie vrais, des textes politiques de la fin du 14e siècle, au sujet de Jean IV, et en particulier de la guerre de succession, de son exil et de son retour triomphal en 1379. Il est probable, si ces textes sont bons, sont d'époque, qu'ils ont été écrits par des gens de l'entourage de Jean IV, qui, prenant un air que tout le monde connaît, adapte des paroles et détourne la chanson, mais les gens la retiennent. On l'a vu récemment avec des infirmières d'un hôpital, des personnels soignants d'un hôpital qui a repris un air populaire sur la Corrèze, un chant que tout le monde a dans la tête d'un groupe qui s'appelle Trois Cafés Gourmands, hein, et qui l'a adapté. Et c'est extraordinaire comme on peut facilement attraper les paroles. Il y a de la colère dans le cathéter. À la limite, c'est encore plus facile à attraper que l'origine, la chanson originale, j'ai la Corrèze dans le cathéter. Voilà, donc c'est étonnant, quoi, de facilité. Et donc les pouvoirs ont compris très bien à la fin du Moyen-Âge quel profit ils pouvaient tirer de ça, et ils s'en sont servis, ils l'ont dilué, et ça semble relativement efficace.
Des concerts pour diffuser des messages politiques.
Voilà.
C'est jamais
exactement. Exactement.
Alors, les rumeurs aussi peuvent traverser les époques. Est-ce que le travail de l'historien aussi derrière ça, c'est pas finalement aussi de réhabiliter quand c'est nécessaire ?
Alors, il faut démonter les rumeurs, il faut démonter les réputations, et il ne faut jamais perdre de vue la chronologie. C'est-à-dire qu'il y a eu des époques, en particulier au début du 19e siècle, où l'histoire de France, et par ricochet les histoires régionales, ont été largement manipulées par des gens comme Michelet, comme Lavis, etc., qui développaient l'idée d'une France éternelle, d'une France qui existait bien avant que les Francs y soient, d'aux ancêtres les Gaulois, etc., ce qu'on retrouve dans Astérix et Obélix. Bon, et donc ces historiens ont tordu l'histoire pour l'amener dans un sens politique qui était celui d'une France unie, républicaine et déjà hexagonale. Et pour développer cette théorie, ils ont adapté l'histoire. Et là, il faut être très prudent. Il faut se méfier de ces raccourcis, de cette transformation. Le pauvre roi Dagobert, par exemple, a été victime des républicains qui, en fait, ceux qui ont inventé la chanson « Le bon roi Dagobert a mis sa culotte à l'envers » décrivant un roi idiot ce qu'il n'était pas, son Saint-Éloi qui, derrière, essaye de rattraper les pots cassés. En fait, derrière la chanson populaire et enfantine, il y a un dénigrement du pouvoir de Louis XVI. Donc, Il ne faut pas dire que Louis XVI était ci ou ça, il faut simplement redémonter l'affaire pour essayer de comprendre comment ces rumeurs, ces fausses informations, ces vecteurs se sont mis en place, et après on les explique et on explique ce qui s'est passé. Libre à chacun de penser que Louis XVI était un saint ou une crapule, c'est pas grave. Le travail du historien, c'est d'amener des éléments sérieux, fiables, vérifiés, tant bien que mal, pour dire voilà ce qu'on constate. Maintenant, vous y croyez, vous n'y croyez pas, c'est un autre problème.
Alors, on revient un peu au Moyen-Âge. Parmi ce contexte politique, là où il y a du discrédit un petit peu partout, entre pays, entre guerres de pouvoir aussi, est-ce que le Moyen-Âge est aussi une période anxiogène, où on avait peur? Est-ce qu'on avait peur du bug de l'an 1000?
Alors, c'est sans doute une période anxiogène, enfin, autant que la nôtre, à la limite, hein, parce que, bon, le Moyen-Âge, alors, déjà, le Moyen-Âge n'est pas une période sombre, enfin, pas plus sombre que les époques contemporaines. Je ne sais pas s'il était pire de vivre au Moyen-Âge que de vivre en Europe au milieu du XXe siècle, par exemple. Bon. Donc, faut pas perdre ça de vue. Après, il y a des niveaux d'anxiété. Si on prend le cas de la peur de l'an 1000, c'est très intéressant parce que les seuls qui aient pu mesurer la peur de l'an 1000, c'est ceux qui étaient au courant du calendrier et du compute, de la façon de décliner les années. C'est essentiellement dans les élites et là, dans les élites religieuses. Donc, si peur de l'an 1000 il y a eu, ça a été très limité à un groupe qui était capable de savoir qu'on était dans l'an 1000, où le reste de la population ne comptait pas forcément comme ça.
Ces peurs du Moyen-Âge, elles sont entretenues par les récits bibliques, j'imagine?
Alors, elles s'appuient sur un certain nombre de récits postérieurs et sur un mécanisme qui est bien connu. Quand tout va bien, ben c'est bien, et quand tout va mal, c'est soit que Dieu nous punit parce que nous ne sommes pas à la hauteur, nous ne faisons pas ce qu'il faut, où il nous envoie des châtiments, où il nous envoie des épreuves pour nous améliorer, nous amender. Et donc, en effet, on peut se retourner là vers tous les grands récits bibliques de crise qui fonctionnent sur le même principe, que ce soit, par exemple, le déluge. Les hommes pécheurs ont été punis par Dieu qui a noyé la terre et qui a permis le sauvetage des animaux et de Noé et de sa femme et de ses enfants. Ce qui ouvre d'ailleurs sur un détail assez cocasse, puisque Noé rassemble dans l'arche des couples d'animaux pour les sauver, et une fois que la pluie s'arrête et que le bateau se pose, il descend à terre et il commence par sacrifier des animaux, ce qui laisse penser qu'il y a un certain nombre d'animaux qui étaient dans l'arche qu'on ne connaît pas parce qu'ils ont été sacrifiés par Noé. Je referme la parenthèse. Mais donc, ces récits que tout le monde connaît au Moyen-Âge, parce qu'on a une population qui est, en tout cas en Occident, quasiment uniformément chrétienne, ou en tout cas pour les juifs de civilisation biblique, de culture biblique, toutes ces populations connaissent ces récits, les voient figurer sur les tympans des églises, sur les fresques, entend les récits à la messe, etc. Et donc connaît tout ce mécanisme et forcément peut être tenté de constater que tel phénomène astronomique incompris, telle période de crise est une punition voulue par Dieu, comme au temps de Noé, comme au temps du déluge, comme au temps du massacre des innocents, etc. Et donc appelle à une réponse religieuse et éventuellement quelques règlements de compte. Les règlements de compte peuvent être ciblés.
La peur du jugement dernier, ça fait partie du quotidien du Moyen-Âge.
La peur du jugement dernier, les hommes, les femmes sont inquiets sur l'avenir, sur la mort, et dans la mesure où ils croient dans la vie éternelle, ils peuvent se poser des questions légitimes sur le paradis et sur l'enfer. Mais on constate une évolution, c'est-à-dire que si la mort est plutôt assumé et considéré comme étant une étape vers un nouvel avenir jusqu'au XIIIe siècle, avec la crise du bas Moyen-Âge au XIVe, au XVe siècle, avec la guerre, avec la peste, avec les troubles politiques, etc., on assiste au développement d'une culture macabre qui met beaucoup plus en avant le péché, l'enfer, et si on prend le cas de la Bretagne, on a comme ça des représentations tout à fait terrifiantes de danse macabre à Kermaria en Iskuit, ou bien je pense à Saint-Léry qui était dans le sud de la Bretagne, la représentation d'un homme aux prises avec sept démons qui représentent les sept péchés auxquels il a affaire. cet homme est peut-être François II, c'est peut-être une commande de sa femme, et c'est sans doute une façon de dénoncer le regard que le bon duc porte sur Antoinette de Maignelais, sa maîtresse. Ça a été démonté, le processus a été démonté dans un livre de Laurent Guiton très intéressant, où il explique bien le règlement de compte politique à travers une statue qui représente un pêcheur. Donc on revient quelquefois, souvent, à des connotations politiques derrière ces phénomènes.
Est-ce que, parmi les peurs, l'environnement faisait partie, par exemple, je ne sais pas, une tempête
Oui, alors, tous les phénomènes extraordinaires sont considérés comme annonçant des catastrophes ou des punitions. Les comètes, par exemple, on sait que la comète, celle de Halley, ou il y en a d'autres.
Celle qui est dans la tapisserie de Bayeux.
Dans la tapisserie de Bayeux. Est-ce que c'est celle qui est dans la tapisserie de Bayeux ? Oui, certainement, je n'ai pas la chronologie en tête, mais il y en a d'autres. Au XIIe siècle, il y a une secte, Léon de l'Étoile, rapport à cette comète. Oui, donc la comète annonce.
C'est mauvais signe.
Annonce une catastrophe. Et là, on reconstruit souvent a posteriori. C'est-à-dire qu'on voit la comète dans le ciel, et puis 6 mois après, le pape meurt, ou le roi meurt, ou la guerre éclate, et voilà, la comète, on avait vu une comète, et donc... Donc, tout ce qui est tremblement de terre aussi est terriblement inquiétant, tout ce qui est montée des eaux est terriblement inquiétant, et souvent, on rapproche ces phénomènes des grands récits bibliques, les plaies d'Égypte, etc. On va recaler ça en disant, vous voyez, c'était dans la Bible, ça nous arrive, donc ça signifie qu'il est temps de se racheter et de faire ce qu'il faut pour. Bon, manifestement, entre l'envie de se racheter et la réalité, on sent qu'il y a quand même quelques petites difficultés.
Alors si on sort un peu de la période du Moyen-Âge et si on regarde l'histoire sur un spectre un peu plus large, les peurs collectives là, qu'on évoque à l'instant, est-ce qu'elles ont pu entraîner des révoltes ?
Alors, elles entraînent des révoltes, ou en tout cas des mouvements de foule et des mouvements d'inquiétude. Alors, mouvements de foule, on parlait des flagellants qui courent dans les campagnes pour expliquer aux gens qu'ils doivent se convertir, ce qui est perçu par le pouvoir religieux et politique comme étant une forme de révolte. Et au moment de la Révolution française, il y a ce phénomène de la grande peur, donc la Révolution éclate, réunion des États généraux, serment du jeu de paume, prise de la Bastille, etc. Et dans le même contexte, dans les campagnes, il y a un grand phénomène de peur. La population pense que la noblesse va venir se venger de ces nouveautés qui sont contraires à l'ordre établi, voulu par Dieu et la monarchie. Et donc, elle prend les devants. Elle se dit que finalement, si les nobles doivent se venger, autant intervenir le premier. Et donc, on a, à l'été 1789, un certain nombre de châteaux qui sont pris, saccagés, sans pour autant qu'il y ait forcément des violences ou trop de violences vis-à-vis de la noblesse, mais en tout cas, il y a un grand phénomène de révolte là, populaire, qui n'est pas général en France. On voit des zones qui sont épargnées, par exemple la Basse-Bretagne, et d'autres, la Haute-Bretagne, qui sont touchées, ça dépend, et c'est partout, c'est valable partout en France. Et donc là, on a une révolte populaire qui est liée à cette peur. Alors, qu'on appelle la grande peur.
La Révolution a eu aussi son lot de rumeurs.
Alors la Révolution a eu son lot de rumeurs et son lot de règlements de comptes. Souvent, c'est dans un contexte très dégradé. Et si on recoupe les grandes journées révolutionnaires avec par exemple, le prix du blé, on constate que le prix du blé atteint des sommets les 13 et 14 juillet 1789, le 4 août 1789. C'est-à-dire souvent, on peut corréler un événement dramatique pour une population qui vit de pain, essentiellement, enfin, qui est la base de sa nourriture, et cette tension, cette peur de manquer, cette peur d'avoir faim, va faciliter en fait la diffusion d'informations, de fausses informations, de mouvements de foule, et va amener à des phénomènes politiques plus importants. Donc c'est intéressant, souvent derrière ce qui nous est décrit comme une montée régulière en puissance, on constate qu'il y a des phénomènes beaucoup plus complexes et que les mentalités collectives sont...
Aujourd'hui, ce ne serait pas le blé, ce serait l'essence.
Oui, alors typiquement, une hausse brutale du prix de l'essence a exactement le même effet sur une population en faiblesse que la hausse du prix du blé à l'époque moderne ou à une époque plus ancienne, la hausse du prix du vin. Je pense au Moyen-Âge.
Allez, une dernière question. Est-ce que l'histoire, c'est un éternel recommencement ?
Oh, est-ce que l'histoire est un éternel recommencement? Vous savez, ça fait un bon devoir de philosophie. Oui et non. Oui, parce que...
On en a donné quelques exemples.
Voilà, les mêmes causes entraînent souvent les mêmes effets. Et non, parce que les mentalités changent, les moyens changent, les niveaux de vie évoluent. Et donc, on peut difficilement se mettre dans la peau de quelqu'un qui vivait à l'époque de la Révolution française ou du Moyen-Âge. Et à l'inverse, il y a quand même certain nombre de bons vieux réflexes, de peur, d'angoisse face à la mort, de joie face à la vie, etc., qui restent valables dans la longue durée. Donc c'est une réponse de Normand. Peut-être ben oui, peut-être ben non.
Merci beaucoup Yves Coitivy. Et on le rappelle, vous êtes professeur d'histoire médiévale à l'UBO et président de la Société archéologique du Finistère. Merci.
Merci.